d'avoir l'opportunité de vous parler sur ce thème qui est extrêmement important pour votre travail, mais aussi pour le mien. Je suis vraiment tout à fait ravie de rencontrer beaucoup de collègues et de participer à cette session. J'ai eu l'opportunité de rencontrer des collègues lundi dernier aussi et de procéder à un échange d'opinions. Mais pour que nous puissions tous nous attaquer aux questions qui concernent la migration et qui est le thème à l'examen, le pacte a été mentionné également, il nous faut avoir un tableau plus large. Il ne suffit pas de rester dans notre propre région ou dans une bulle pour aborder ces questions. Vous savez tous probablement des débats très toxiques sur le pacte qui se sont déroulés dans un certain nombre de pays européens, ce qui n'a rien à voir avec le pacte à proprement parler, toujours avec cette paranoïa, même cette panique qui s'est saisie de l'Europe par rapport à tout ce qui est en rapport avec la migration, sans pour autant vouloir atténuer les résultats, puisque le pacte est conclu. En tant que commissaire, mon problème n'est pas le pacte en tant que tel, mais plutôt la protection et la réalisation des droits de l'homme de tous les migrants. Beaucoup de ces droits, naturellement, trouvent leur place dans le pacte, mais l'action dans ce domaine n'a jamais été dépendante du pacte exclusivement et ne devrait jamais en dépendre. Ces actions découlent des obligations que les États ont, quelle que soit l'idée qu'ils l'appuient, le rejettent ou qu'ils sont ambivalents à propos du pacte. C'est dire que ce que nous avons déjà dans notre cadre institutionnel au niveau international mais national, les mécanismes et les outils qui existent, amène à penser qu'il ne faut pas forcément rechercher de nouveaux documents ou de nouveaux instruments pour ce qui est de cette question. Et quand il en vient à la protection des droits des femmes et des jeunes filles migrantes et du rôle des INDH, il y a deux principaux défis qu'il est utile de mentionner sous la perspective européenne. Et sans doute faut-il dire que je couvre 47 États membres du Conseil de l'Europe. Le mandat qui m'est dévolu couvre précisément cette région. Eh bien, le premier défi, c'est l'érosion de l'idée que les migrants ont des droits. Pour commencer, le climat politique actuel qui prévaut en Europe de plus en plus se penche vers une déshumanisation des migrants et par conséquent vers la notion qu'ils ne méritent pas d'avoir des droits. Mais ils les ont, ces droits. En tout cas, c'est ce que nous pensons ici dans cette salle. Même droits que n'importe quel autre d'entre nous, et qui plus est, et pire encore, c'est ce qui conduit à une perception que ceux qui tentent de franchir les frontières sans permission, quelle que soit l'origine de cette décision de leur part, connaissent un sort horrible, qu'ils se noient en mer, qu'on leur tire dessus, qu'ils soient passés à tabac, détenus en détention pour des périodes prolongées ou privés de l'accès à des services fondamentaux ou contraints de vivre dans des conditions épouvantables, plutôt que de percevoir tout cela comme le résultat de l'action publique. Deuxième défi, c'est que les États semblent avoir oublié comment réfléchir de façon plus générale lorsqu'il est question de la migration. L'élément clé en ce qui concerne cette approche européenne à la migration, c'est d'empêcher les gens d'arriver. Pour ce faire, on construit des structures intégrées et du coup, maintenant, on les démantèle pour que l'Europe soit la moins intéressante possible. Notamment, on diminue les prestations sociales pour les migrants dans beaucoup de pays. Il y a des restrictions très importante sur le droit au regroupement familial et d'autres barrières à l'intégration réussie à long terme. Non seulement cela porte préjudice aux migrants, mais c'est aussi un impact majeur possible en termes d'économie et de cohésion sociale. Et ce qui, à son tour, alimente le ressentiment contre les migrants, ce qui, d'ores et déjà, provoque des à-coups et des perturbations en Europe. Cette même pensée eurocentriste à court terme meut les efforts qui poussent les pays d'origine et de transit à jouer le rôle de policier de la migration pour le compte de l'Europe. Pour empêcher la migration, les États européens sont prêts à dépenser des sommes considérables pour inciter les pays d'origine et de transit à faire la police de la migration pour leur compte. Dans certains cas, nous avons d'ores et déjà vu que cela conduisait à des violations des droits de l'homme pour lesquelles les pays européens parviennent à éluder la responsabilité juridique. Je crois que c'est ce qui représente un défi aussi bien pour les INDH qui se trouvent en Europe, mais aussi pour celles dans les pays qui agissent en tant que partenaires de l'Europe à ce sujet. Je ne vais pas discuter de l'impact spécifique sur les femmes et les jeunes filles de façon trop détaillée, puisqu'incontestablement, nous en parlerons davantage plus tard. Et vous aurez d'ailleurs des discussions. Mais toutefois, je dirais que les développements que j'ai abordés peuvent avoir un impact particulier sur les femmes et les jeunes filles, notamment en augmentant leur vulnérabilité à la traite, à la violence sexuelle, aux abus, aussi bien en chemin vers l'Europe qu'une fois qu'elles y sont parvenues. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour les INDH? Tout d'abord, des violations flagrantes des droits des migrants qui doivent être tout de suite abordées. Dès que nous commençons à accepter qu'il y ait des mauvais traitements, qu'il y ait une façon de les repousser et qu'il y ait une détention à long terme dans de mauvaises conditions, comme faisant simplement partie du jeu, la notion des migrants qui ne méritent pas des droits gagne, ce qui exige de renforcer le travail de surveillance par les INDH et une conception stratégique contre les mesures de régression. Ensuite, il faut investir dans la communication, c'est crucial par rapport à la situation, du fait que les débats publics sont hautement politiques et polarisés. Or, il faut que les INDH se fassent entendre parce qu'elles ont la compétence technique et l'autorité. En ce sens, elles seront pleinement appuyées par moi. Troisièmement, les INDH devraient profiter de leur rôle comme passerelle entre la société civile et les gouvernements pour s'assurer que les voix des migrants se fassent entendre dans les processus législatifs et politiques qui les concernent. Les migrants eux-mêmes peuvent avoir des difficultés à accéder aux coulisses du pouvoir, mais les INDH peuvent les aider à y parvenir et j'espère vraiment que vous le ferez. Quatrièmement, prenez une meilleure transparence et une reddition des comptes dans la politique migratoire, notamment lorsqu'il est question de coopération internationale et d'activités irrelatives qui affectent les droits des migrants est quelque chose d'important. Par exemple, les INDH peuvent insister pour que leur gouvernement publie des évaluations d'impact sur les droits de l'homme, des activités de coopération projetées ou pourraient les aider à renforcer la capacité qui leur permette de procéder à ces évaluations. J'en resterai là pour qu'on ait le temps de discuter de ces questions qui, inévitablement, resteront inscrites longtemps à l'ordre du jour. Je vous remercie beaucoup, Madame la Commissaire.